Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors vous êtes tout seul cette semaine, Philippe Louny n'est pas là, mais peut-être va-t-il nous rejoindre au cours de cette émission.
C'est possible, il est sur la route, m'a-t-il dit.
Voilà, donc,
sur la route de Madison.
Un jour, un livre, un auteur, donc grand plaisir de vous retrouver. Et vous avez un invité par téléphone.
Alors j'ai un invité au téléphone, Paul Hébrard, qui vient de sortir un roman aux éditions Arcane 17, roman qui s'appelle Manipulation. Bonjour Paul.
Bonjour à vous.
Alors Paul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais, parce que nous on se parle hors antenne, je dis ça aux auditeurs et aux auditrices parce qu'ils ne comprennent pas forcément, donc on se parle hors antenne avant de démarrer l'émission. Donc Manipulation de Paul Hébrard aux éditions Arcane 17. Soucieux de monter en grade, Klaus Gallop, prestataire de sécurité informatique pour la Future University et taupe des services de renseignement, propose aux vigiles une opération de manipulation politique visant à décrédibiliser un révolutionnaire latino-américain du début du XXe siècle. Mais ce qui ne devait être qu'une opération de routine va vite tourner au fiasco à cause de quelques bras cassés portés par l'idéalisme ou tout simplement le désir amoureux. Dans ce roman, à la fois polar et récit de dystopie, Paul Hébrard emmène le lecteur à la suite d'Alexandre, un millionnaire révolutionnaire, de Mary, une photographe, de Roman, petite main dans les services informatiques de la Future University, Frank, son agent traitant caché, les étudiants engagés Marco et Alicia, tout ce petit groupe dans une folle équipée entre la France, le Nicaragua et les tréfonds des data centers. Qui gagnera ? Ceux qui veulent manipuler la connaissance ou ceux qui s'acharnent à lui conserver sa vérité ? Une histoire foisonnante qui résonne de façon dramatique avec les événements actuels de l'autre côté de l'Atlantique. Manipulation de Paul Hébrard, édition Arcane 17, collection Polar Rouge. Alors Paul, ce roman, il vient d'où ?
Ah, il vient de loin. Il vient de mémoire. Enfin, pas de mémoire, j'ai vérifié sur les premières versions. Il vient de 2006.
Mmh.
2006, c'est l'époque où une théorie qui s'appelle le New Public Management, c'est-à-dire une théorie selon laquelle il faudrait que les administrations, que les services publics s'inspirent du fonctionnement des entreprises privées pour réussir mieux et moins cher. Donc c'est l'époque où ce principe triomphe et où, dans les universités, et particulièrement dans les universités qui abritent les sciences humaines et sociales, eh bien on explique qu'il va falloir changer la façon de gérer les universités. Et évidemment, dans ce genre d'établissement, ça provoque beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude, parce que on nous parle de performance, de contrat d'objectifs, d'efficience, voire même de rentabilité, de diversification des sources de financement. Bref, ça râle beaucoup. C'est aussi l'époque où le numérique, avec des projets ambitieux, arrive à maturité. C'est les projets de campus numérique, d'espace numérique de travail, d'université numérique. Bref, un contexte assez anxiogène pour beaucoup d'enseignants-chercheurs, beaucoup de personnel de ces universités. Mmh. Et voilà, et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce roman. Je dis, et si vraiment ces principes allaient jusqu'au bout, allaient trop loin, qu'est-ce que ça pourrait donner comme type d'université ? Et c'est là que j'ai imaginé cette université chimérique de la Future University. Et puis, Sandino, il est arrivé par deux chemins. Le premier, c'est que je venais de lire un roman de Paco Ignacio Taibo II qui s'appelle « À quatre mains » et qui raconte une tentative des services secrets américains pour décrédibiliser la révolution sandiniste.
Mmh.
Et comme le Nicaragua, je le connaissais un petit peu pour y être allé tourner deux documentaires en 1980 et en 1982, je me suis dit que finalement, en mélangeant ces deux ou trois ingrédients, on pourrait peut-être faire un roman qui serait pas mal. Alors, j'avais commencé à écrire dès 2006, et puis Le problème, c'est que je dois être ou un peu feignant, ou monotâche. Et bref, je ne suis pas arrivé à mener de front l'écriture et ma vie professionnelle et puis ma vie familiale. Et donc, c'est quand j'ai pu être libéré des contraintes de la vie professionnelle que je me suis remis à l'écriture, même si quand même je ne l'avais jamais oublié, parce que régulièrement j'écrivais des petites notes pour aller enrichir ce projet de roman. Et voilà comment je m'y suis remis en 2022, voilà, pour arriver à aboutir à ce roman Manipulation.
Alors c'est un roman, comme son nom l'indique, où il va y avoir pas mal de manipulations, puisque l'idée de base, à un moment donné, pour Gallop, c'est de se dire, aujourd'hui, la recherche historique remet en question pas mal de figures tutélaires des mouvements révolutionnaires. Si au lieu d'attendre que les figures tutélaires deviennent des personnages emblématiques, peut-être qu'il faudrait d'abord, pour qu'elles ne deviennent pas des figures tutélaires, il faudrait peut-être les tout de suite casser leur image. Et donc c'est cette idée qui va présider au travail de ce Gallop et à ce qu'il propose à cette officine, parce que c'est même pas un service secret, c'est une officine un peu bizarre, qui est à la fois une officine privée et en même temps un service d'État, etc., avec une sorte de mélange malsain privé-public. Est-ce que là, vous vous êtes appuyé sur des exemples concrets de cette sorte de marée publique-privée du temps où vous étiez professionnel ?
Oui, alors, d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, Klaus Gallo, en fait, il a cette idée parce que lui aussi a lu « À quatre mains » de Paco Ignacio Taibo II, et il a lu cette histoire de manipulation. Effectivement, il se dit que là où Alex, le personnage principal de ce roman a échoué, lui pourrait y arriver parce qu'il a les droits d'entrée, effectivement, dans une bibliothèque numérique, une espèce de projet quasiment totalitaire mis en œuvre par les consultants qui officient dans cette future université. Mmh. Et donc, il se dit là qu'il a les moyens d'aller, effectivement, caviarder des sources et des documents scientifiques pour aller abîmer l'image de Sandino, puisqu'il en arrive à la conclusion que l'image des sandinistes a été suffisamment abîmée tout au long, depuis la révolution sandiniste de 1979. Donc il se dit qu'autant s'attaquer à un personnage un petit peu oublié, hein, Augusto César Sandino, je suis pas sûr que beaucoup de monde puisse dire précisément de qui il s'agit. Mmh. Donc voilà pourquoi il fait ce choix d'un personnage un peu oublié pour aller trafiquer l'histoire et du coup réussir là où Alex, le héros du roman avait échoué. Alors, des exemples de manipulation, il y en a beaucoup. D'abord, historiquement, ça a toujours été un jeu pour les services de renseignement d'aller caviarder des textes. D'ailleurs, l'expression caviarder, ça vient bien de textes qui ont été rayés de noir, de la couleur du caviar, mais aussi de truquer des photos, voilà. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus récentes, on va dire, et qui sont précisément le résultat d'un mélange parfois un peu compliqué entre le public et le privé. C'est ce qu'on appelle les recherches de diversion. C'est-à-dire l'idée d'aller, lorsque un produit industriel nouveau sort, lorsqu'un projet d'aménagement est en place, d'aller un petit peu faire des recherches de diversion qui ont pour but de décrédibiliser ceux qui s'y opposent et de rassurer la population. Il y a un exemple absolument extraordinaire, c'est lorsque les industriels du tabac aux États-Unis ont commandité plusieurs études pour prouver qu'il était beaucoup plus dangereux de prendre les transports en commun que de fumer des cigarettes. Donc là, on est sur un autre registre qui est le registre des figures politiques, notamment des révolutionnaires. Hein. Le roman, il aurait presque pu s'appeler les révolutionnaires meurent souvent deux fois ou meurent toujours deux fois.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de cas où on a, où des historiens, souvent à juste titre, eu des regards critiques sur l'histoire des révolutionnaires, mais où parfois les pouvoirs politiques s'emparent de ces regards critiques pour complètement décrédibiliser. Et Sandino, du temps de juste après sa mort, a fait l'objet d'intenses campagnes de dénigrement pour éteindre cette flamme révolutionnaire qu'il avait allumée au Nicaragua dans les années 30.
Est-ce qu'on pourrait dire deux mots sur Sandino ? Parce qu'effectivement, vous avez bien mis le doigt sur le fait qu'il est peu connu par le grand public. Hein. Il est connu par un certain nombre de gens qui se sont intéressés à ce qui se passait au Nicaragua à la fin des années 70 et au début des années 80 avec l'intervention des États-Unis à travers les Contras, etc., etc. Mais on connaît peut-être pas. On connaît peut-être le terme de sandiniste, mais on ne connaît pas forcément qui était César Sandino. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour nos auditrices et nos auditeurs?
Oui. Alors c'est un donc il est né en 1895 et il est mort assassiné par celui qui deviendra la première d'une dynastie de dictateurs. Il est assassiné en 1934 par un de la famille Somoza.
Somoza qui restera au pouvoir soutenu par les États-Unis jusqu'en 79. Oui.
Voilà, et renversé. Voilà. Donc c'est le fils d'une indienne et d'un propriétaire terrien qui grandit dans un milieu donc extrêmement pauvre et défavorisé et qui va du fait de sa vie dans ce milieu défavorisé développer un sentiment nationaliste fortement opposé à la présence des Américains dans son pays, qui tiennent le Nicaragua en coupe réglée. Et c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de culture politique, qui n'appartient ni à un parti politique
ou autre.
Voilà. C'est quelqu'un qui s'inspire de plusieurs sources. Donc on va dire que dans sa position politique, on va dire qu'il y a deux périodes. Il y a une période où il s'inspire assez fortement des idées qu'on va qualifier de gauche, qu'on qualifierait de gauche aujourd'hui, hein, c'est-à-dire sur la question de la rémunération des enfants, la rémunération des femmes. Il a aussi des projets extrêmement intéressants sur une sorte de fédération des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, avec des idées très très novatrices. C'est aussi quelqu'un qui est très intéressé par la théosophie, par la franc-maçonnerie. Et puis c'est quelqu'un qui, dans la deuxième période de sa vie politique, on va dire, au cours d'un séjour au Mexique, va adhérer à des thèses alors beaucoup plus mystiques, qui sont inspirées par un personnage qui s'appelle Tringado, qui a fondé l'école magnétique de la pensée universelle. Et là, il va sombrer dans une sorte de mysticisme, parfois assez violent, pour à la fin de sa vie politique revenir, on va dire, à des idées
plus terre à terre, quoi.
Voilà, plus terre à terre. Et donc, c'est vraiment un personnage qui a une pensée très très éclectique. Et ce qui est intéressant, c'est que par certains côtés, il pourrait rappeler certains personnages de ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Il est très difficile de le classer, de le catégoriser.
C'est quelqu'un qui est plutôt un révolté qu'un révolutionnaire.
Oui, même si à des moments, il dit bien, quand il s'adresse à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'extrême gauche, il dit bien, nous partageons les mêmes vues, nous partageons les mêmes objectifs. Et donc, il est plutôt content de leur soutien. Mais, encore une fois, c'est quelque chose de... il a une pensée politique pas stable, pas bien construite, et donc il est capable de se laisser influencer par des théories, on va dire, fumeuses. Et c'est précisément sur cet éclectisme de sa pensée que vont s'appuyer les... d'abord Klaus Gallo qui imagine une histoire et puis après les services de renseignement, enfin tout au moins l'officine de renseignement qui prend la suite sur cette espèce de fragilité. C'est là-dessus qu'ils vont s'appuyer pour lui inventer une légende
Une légende noire, ouais.
Absolument.
Et d'extrême droite, puisqu'ils vont en faire quelqu'un qui va adhérer au national-socialisme, alors que historiquement, ça semble peu probable, puisqu'il est assassiné en 1934. Quoi. Et donc,
exactement. Voilà. Alors, même si, voilà, même l'idée, c'est que, comme on sait qu'il a été au Mexique pendant 2 ans, malgré tout, le Mexique, c'est aussi un endroit où on a pas mal de gens qui vont préparer, qui travaillent déjà, qui pensent déjà fortement au national-socialisme et qui espèrent l'avènement du national-socialisme en Allemagne. Donc c'est aussi un endroit où il aurait pu, ça ne s'est jamais produit, où il aurait pu rencontrer ce genre de personnage.
Ouais. Alors le cœur même de l'histoire, donc là, vous nous éclairez sur la trame de fond et sur ce qui fait le... je dirais la structure narrative, mais le cœur même de l'histoire, c'est aussi quelque chose qui est assez présent aujourd'hui. Alors celle de la manipulation de l'histoire pour la faire rentrer dans ses idées, hein, c'est la mise en place d'un révisionnisme, etc. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que vous mettez bien en évidence, c'est cette mainmise de plus en plus forte, à la fois des consultants, des cabinets de consultants qui prennent un pouvoir extrêmement important. Et puis aussi quelque chose d'autre qui est la concentration de la diffusion du savoir. Parce que effectivement, derrière la Future University, donc cette université du futur, qui est une université d'excellence, on peut penser à... Alors, je ne sais pas, peut-être que c'était... pas votre modèle, mais moi je pense à Léonard de Vinci de Pasqua, là, l'université Pasqua, hein, qui est un peu dans ce style-là. Ce qu'on voit aussi, c'est cette concentration de la diffusion du savoir, qui aujourd'hui existe, je veux dire, le principal éditeur scientifique aujourd'hui, Elsevier, est, je dirais, non seulement le principal, mais il est quasiment monopoliste, avec une politique qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que les chercheurs écrivent des articles sur leur domaine de recherche. Elsevier, à travers l'ensemble des médias scientifiques, des revues scientifiques de haut niveau qu'il sort, va en même temps ponctionner une partie des crédits des laboratoires, parce que les chercheurs donnent des papiers gratuitement, mais le laboratoire, pour pouvoir savoir ce qui se passe ailleurs et même pour avoir les papiers de ses propres chercheurs, il est obligé de les payer. C'est-à-dire qu'en fait, sur le prix que coûte le fonctionnement du laboratoire, une partie est détournée vers les émetteurs de cette diffusion du savoir. Donc ça, là, vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de savoir écrit, il n'y a plus que du savoir numérique. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous l'aviez pensé ?
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Là, si vous voulez, un des... Alors, il y a deux choses dans votre question. Il parle de la question des consultants. Alors oui, les consultants... il y a eu de nombreux ouvrages écrits sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'ils ont un filtre. Précisément pour l'application de ces fameuses règles du New Public Management et puis de la révision générale des politiques publiques voulue par le président Sarkozy en 87, si je ne dis pas de bêtises, en 2007. Effectivement, ce sont vraiment rentrés dans tous les rouages de l'État, dans tous les services publics, pour faire appliquer ces fameuses règles. Et c'est un vrai problème, parce que d'un certain côté, c'est certain que ces boîtes-là ont des méthodologies et des compétences d'analyse qui sont intéressantes. Le gros problème, c'est qu'en général, les services publics n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas su leur imposer de travailler dans le sens de l'intérêt des services publics. Et donc, il est arrivé que ces cabinets de consulting proposent des solutions, d'ailleurs c'était un petit peu le but du jeu quand même, très dommageables pour les services publics. Et donc, même si moi j'ai eu à travailler avec eux, moi j'ai eu la chance de pouvoir en gros leur tenir la laisse courte pour que les conclusions qu'ils rendent n'aillent pas à l'opposé de ce qu'on avait envie de mettre en place dans les cercles, dans les universités dans lesquelles j'ai pu travailler. Mais bref, après sur la question des bibliothèques, sur la question de la science ouverte, là vous avez tout à fait raison. C'était exactement l'idée. C'est-à-dire que l'idée que les connaissances scientifiques, les publications scientifiques doivent être accessibles à toutes et à tous, à tous les chercheurs bien sûr, mais aussi à tous les citoyens.
Mais oui.
Ça c'est un principe qui reste encore officiellement affiché,
mais qui
se heurte à des pratiques, celles que vous avez soulignées, des éditeurs publics, privés, dont vous avez souligné le caractère terriblement prédateur. Et qui effectivement font de la publication scientifique des marchandises qui coûtent deux fois ou trois fois à la puissance publique. Une première fois pour financer le travail des chercheurs, une deuxième fois pour pouvoir les publier et une troisième fois pour les rendre accessibles. Donc il y a là quelque chose qui est absolument terrible. Et effectivement, dans le roman, ça prend symboliquement l'idée d'une bibliothèque numérique. C'est pour les commodités du roman. C'est évidemment, les mécanismes sont plus subtils que ça. Mais l'idée, c'était quand même ça. Et le lieu que je décris pour cette bibliothèque numérique, c'est m'a été inspiré par le Media Center de l'École Polytechnique de Lausanne que j'ai pu visiter, qui est un lieu assez fantastique parce que les livres, alors il y en a encore, contrairement à ma bibliothèque, il y en a encore, mais très peu. Et on est vraiment sur cette espèce d'espace où l'essentiel de l'accès à la connaissance, au savoir, au débat, se fait via effectivement des accès numériques. Alors, pourquoi pas, c'est très bien, très efficace. Mais se pose derrière le problème du contrôle.
Mais oui.
De la centralisation de ces outils-là et de leur fragilité. Tout à l'heure, vous remarquez que le roman fait écho à ce qui est en train de se passer
aux États-Unis avec le.
Oui, à partir du moment où on est sur des données, sur des publications numérisées, il est extrêmement facile, tout d'un coup, d'en couper l'accès. Il faut simplement espérer que d'autres personnes bienveillantes récupère au plus vite toutes ces données-là pour qu'elles ne soient pas effacées. C'est quand même assez terrible. Autant il est quasiment, enfin, même si dans l'histoire on a bien vu qu'on pouvait brûler les livres, mais c'est compliqué de brûler tous les livres.
Oui, d'autant plus si tous les livres sont répartis à travers le monde, je veux dire. D'ailleurs, c'est aussi un élément important, c'est que les bibliothèques ont des ouvrages, le même ouvrage, il peut être dans 50, 100, 150 bibliothèques. Alors, on peut brûler tout ce qu'il y a dans une bibliothèque, brûler le contenu de 150 bibliothèques dans 100 pays différents, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors que là, juste une fermeture d'accès à un serveur, vous avez fait disparaître la bibliothèque, il n'y a même pas besoin de la brûler, quoi.
Exactement. Et sans compter qu'on peut effectivement introduire dans ces bibliothèques-là des données qui sont peut-être moins facilement contrôlables et contrôlées que lorsque on suit le processus long et vertueux de la publication scientifique. C'est l'hypothèse du roman, d'aller trafiquer une publication pour semer le doute. Alors là, on est vraiment dans la dystopie. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples comme cela. Mais enfin, ce qui est intéressant aussi de voir aujourd'hui, c'est que des dispositifs qui permettent l'accès à la science ouverte, les dispositifs publics en France particulièrement, sont là, ils existent. Certains des auditeurs ont peut-être entendu parler de HAL, HyperArt.
Oui, HAL, oui.
En ligne, voilà, HAL, mais qui est un dispositif fantastique, mais très, 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 très peu financé. Moi, je pense sous-financé. Et on sait bien qu'il y a des projets concurrents qui sont plus, alors, on va dire plus sexy, plus attirants, peut-être plus efficaces. Peut-être, voilà. Et c'est très, très grave. C'est très, très grave que la puissance publique n'investisse pas plus dans ce genre de dispositif.
Il y a une sorte d'angélisme par rapport à ça de la part de la puissance publique, je trouve.
Oui, bah, oui, alors d'angélisme, je ne pense pas que ce soit un calcul. Même si...
Oui, c'est pour ça que je parle d'angélisme, parce que ouais, c'est... Ouais.
Même si quand même, cette, vous savez, il y a un terme moi, qui m'a souverainement agacé, notamment sur la fin de ma carrière, c'est à chaque fois qu'il y avait des nouveaux projets, on nous parlait de modèle économique. Mmh. Comme si le financement public n'était pas un modèle économique. Ça en est un. Mais à chaque fois qu'on parle de modèle économique, on parle en fait de, d'une prestation qui doit trouver...
une contrepartie.
Voilà. Et c'est très très grave. Dans certains domaines, évidemment que ça se justifie, mais dans d'autres, ça peut être extrêmement grave.
Tout à fait. Tout à fait. Mais écoutez, Paul, on arrive à l'issue de notre interview. Donc, je rappelle que votre roman s'appelle Manipulation, qu'il est édité aux éditions Arcane 17 et dans la collection Polar Rouge. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vous ai reçu dans cette émission et j'espère que le contenu plaira à nos auditeurs, et donc je lui souhaite longue vie à ce roman. Merci beaucoup, Paul, de vous être prêté à cette interview, et donc à bientôt, j'espère, lorsque vous en publierez un autre, mais d'ici pourquoi un pas. An ou deux, pourquoi pas. Au revoir, merci. Et merci à vous.
Merci beaucoup, Diego, merci à vous. Au revoir.
Au revoir.